Soyez les bienvenus sur Radio Vallée-Vézère. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Vallée-Vézère, votre radio au cœur de la vallée.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Sarlat, votre spécialiste culture, CD, DVD, jeux vidéo et librairie sur plus de 600 mètres carrés au cœur du Périgord noir. Retrouvez votre espace multimédia dans votre hypermarché Leclerc Sarlat Les Deux Gares. Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Sarlat, 3 rue de la Liberté et sur real-chocolat.com. Réal Chocolat, fait naître la gourmandise.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Vallée-Vézère, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, je vous souhaite la bienvenue pour ce tout nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé pour ce lundi 25 novembre. On va démarrer avec un des succès du box-office depuis ce début novembre, c'est le film La Belle Époque, le film de Nicolas Bedos. On va recevoir dans quelques toutes petites minutes Michael Cohen qui est à l'affiche de ce film, on en parle évidemment dans un instant. Et gros coup de cœur télé cette semaine consacré au téléfilm Classe Unique qui sera diffusé demain soir sur France 3. Nous allons avoir la chance de recevoir toute une partie de l'équipe, notamment Clémentine Célarier, Sam Carman, Geoffrey Platel, Fanny Gilles et Samuel Jouy seront nos invités. Nous aurons le plaisir aussi de recevoir Audrey Fleurot qui est à l'affiche, une des héroïnes de la série Le Bazar de la Charité sur TF1. Ça a été un des cartons de la semaine dernière. On va découvrir la suite ce soir. Et puis ce soir, c'est la première création originale 13e rue qui débarque également. Ça s'appelle Trauma. Guillaume Labbé et Margot Bansillon seront avec nous dans un instant pour en parler. Et événement, et bien sûr, à quelques jours de sa venue dans notre région Nouvelle-Aquitaine, notamment le 1er décembre à La Rochelle au Parc des Expos et le 21 décembre au Zénith de Limoges. C'est Chantal Goya qui sera notre invitée exceptionnelle en fin d'émission. Vous l'avez compris, c'est encore une émission événement à laquelle on vous invite aujourd'hui. Alors on va tout de suite eh bien, détailler les audiences de la semaine dernière juste avant d'accueillir Michael Cohen. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on va tout de suite démarrer avec les audiences de la semaine dernière. Et lundi dernier, c'est un carton pour la série de TF1, Le Bazar de la Charité, avec 6 805 000 téléspectateurs et 31% de part de marché. L'Amour est dans le Pré arrive deuxième sur M6, mais loin derrière, avec 3 425 000 téléspectateurs et 14,4% du public. Le téléfilm de France 2, On l'appelle Ruby, 9,3% de part de marché, 2 147 000 téléspectateurs. Et Le Monde de Jamy fait un tout petit score, avec seulement 1 547 000 téléspectateurs sur France 3 et à peine 7% du public. Mardi, eh bien, il y avait un téléfilm sur France 3, La Maladroite, qui arrive en tête des audiences avec 4 480 000 téléspectateurs et 19,6% de part de marché. Soit sur TF1 n'est pas loin avec 4 070 000 et 17,3% de part de marché. La France a un incroyable talent sur M6, toujours au-dessus des 3 millions de téléspectateurs avec 15% du public. Et petit score pour Cash Investigation qui profite de nos impôts avec seulement 9,2% du public et 1 961 000 téléspectateurs. Mercredi, c'est Good Doctor qui arrive en tête des audiences avec 4 386 000 téléspectateurs sur TF1. Nina est juste derrière avec 3 145 000 et 13,4% du public sur France 2. Le meilleur pâtissier sur M6 arrive 3e avec la demi-finale qui a été suivie par 2 609 000 téléspectateurs et 13,2% du public. Est un beau score pour la 4e place pour Arte et Jeux Interdits, le classique du cinéma avec Brigitte Fossé. Et vous avez été quand même 1 456 000 téléspectateurs et 6,3% du public à suivre cette rediffusion. Jeudi, c'est un carton pour le retour de Balthazar sur TF1. 6 421 000 téléspectateurs et 29,2% du public. Et Envoyé spécial sur France 2 a bien fonctionné. 2 489 000 téléspectateurs et 12,1% du public. Imitation Game fait un petit score, seulement 1 571 000 téléspectateurs et 7,6% du public. Et vendredi, sans surprise, c'est Mask Singer qui arrive en tête des audiences. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler de La Belle Époque. C'est le film qui est sorti au cinéma le 6 novembre dernier. C'est un carton complet pour le film de Nicolas Bedos. Et on va en parler justement avec Michael Cohen qui est avec nous. Bonjour Michael.
Bonjour.
qui est avec nous et qui joue le rôle du fils de Daniel Auteuil dans ce film La Belle Époque. Première question que j'ai envie de te poser, Mickaël, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, même s'ils ont été déjà très nombreux à se précipiter dans les salles, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire là maintenant pour leur donner envie d'aller le voir?
Eh ben déjà, faites confiance au public de la Baule qui nous a décerné le prix du public, qui est un prix magnifique parce que ça reste les plus beaux prix, ce sont ceux décernés par le public. Donc voilà, ça c'est un argument. Et puis si vous voulez aller voir un grand film d'amour, parce que c'est avant tout un film d'amour, un film drôle avec de grands acteurs, et assister à la naissance d'un grand réalisateur, Nicolas Bedos, qui avait déjà fait un premier film formidable, Monsieur et Madame Adelman, mais qui là, je pense, est monté de plusieurs crans, et il a accouché d'un petit bijou, et il s'est lui-même accouché en tant que metteur en scène. Je pense que il a définitivement pris une place très très importante dans le cinéma français.
Alors, jouer le rôle du fils de Daniel Auteuil, franchement, ça doit être une super expérience de jouer avec un monstre du cinéma comme Daniel.
Ah bah oui, c'est... Et Fanny Ardant, hein. Donc quand même, famille quand même extraordinaire. Et ce sont des acteurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc me retrouver avec cette filiation-là dans un film, c'est particulier parce que si je fais ce métier aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à eux ou à cause d'eux. En tout cas, c'est en les ayant vus au cinéma que j'ai eu envie de faire ce métier, donc il y a une filiation entre eux et moi, et de jouer leur fils, j'espère légitime, c'était un honneur, une fierté, un bonheur, parce que voilà, j'avais la chance de les connaître dans la vie. Fanny Ardant, j'ai joué au théâtre avec elle, Daniel, on s'est déjà croisé souvent, mais jouer avec eux, avec ces grands acteurs-là, c'est quelque chose de merveilleux.
En plus, tu as un meilleur ami dans le film qui s'appelle Guillaume Canet, là encore, c'est incroyable.
Oui, je suis gâté, entre mes parents, mon meilleur pote, Nicolas m'a entouré de gens assez talentueux et brillants, et je suis assez fier. Et puis, Guillaume est formidable dans le film, il est tellement drôle et...
Touchant aussi.
Et touchant, enfin voilà, vous me demandiez pourquoi aller voir ce film, et pour toutes ces raisons, et c'est un film qui, j'ai l'impression, parle à tout le monde, à toutes les générations, tout le monde peut se retrouver dedans, parce que... c'est un film sur le temps perdu et le temps retrouvé, et le temps qu'on retrouve, qui n'est peut-être pas perdu.
Le film est assez long, malgré tout, parce que ça s'est perdu. Hein. On n'était plus sur des films d'1h20, 1h30, là, on est sur 2h quasiment. Et pourtant, Mickaël, on ne voit pas le temps passer. Donc ça, c'est aussi une magie, parce que dans un film voilà, un peu plus long que les standards habituels, ne pas voir le temps passer, c'est plutôt un gage qu'on passe un bon moment.
Mais Nicolas, il a vraiment conscience de ça. Il a vraiment, il veut pas que le public s'ennuie. En plus, c'est un musicien, Nicolas. Il a un sens du rythme. Et c'est vrai qu'il avait envie de... Aussi, il regarde beaucoup de séries, donc tout ça. Enfin, donc il avait envie de faire un film très rythmé, non pas sur-rythmé, mais très rythmé, et un peu comme une partition de musique avec des moments qui vont très très vite, notamment tout le début, toute l'ouverture du film va très très vite au niveau du montage, et puis des moments plus lents, et puis ça repart. Enfin, c'est un film qui nous laisse jamais passif, j'ai l'impression. On est toujours actif avec le film, on est comme en immersion, je trouve.
Alors, les premiers chiffres sont absolument hallucinant sur la première semaine d'exploitation du film, très très gros succès. Alors dans le film, ton meilleur ami en fait est spécialisé dans la possibilité de refaire vivre des moments du passé qui ont marqué peut-être toute une vie ou qui ont changé la vie de certaines personnes. Et ton père, Daniel Auteuil, va vivre cette expérience d'essayer de retrouver sa rencontre avec Fanny Ardant. Et voilà pourquoi je dis c'est hyper touchant, parce que on retrouve un Daniel Auteuil touchant, fragile. Donc c'est une belle histoire et originale, ça s'est jamais vu au cinéma. Donc c'est vraiment un scénario plutôt original.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est quelle époque, si on nous donnait l'occasion de faire ça, quelle époque on choisirait? Est-ce qu'on choisirait, je sais pas moi, la première fois qu'on a embrassé une fille, la première fois qu'on a fait l'amour? Est-ce qu'on choisirait le jour où on a eu notre bac, je sais pas, ou le jour où on a rencontré son meilleur ami? En l'occurrence, là, Daniel, il choisit de revivre le jour, un jour très précis, 1974, un jour très précis où il a rencontré la femme de sa vie. Et il va revivre ça régulièrement. Cette journée, il va le revivre régulièrement et ça va lui redonner goût. Le fait de revivre le passé va lui redonner goût au présent, en fait.
On va vous laisser découvrir La Belle Époque. Ça vient de sortir au cinéma. Michael, des projets pour fin 2019, début 2020 qui arrivent?
Eh bien oui, enfin je reprends une pièce de théâtre. J'ai créé à la rentrée Elephant Man aux Folies Bergères à Paris avec Joey Starr et Béatrice Dalle. Et ça a été aussi un beau succès. Et on reprend la pièce du 28 novembre au 14 décembre aux Folies Bergères. Et ensuite on va faire une tournée. Et c'est un spectacle assez unique en son genre. Je vous encourage tous à le voir si vous pouvez. Avec un Joey Starr comme vous attendez pas à le voir, c'est aussi un grand acteur de théâtre et un super partenaire.
2020 la tournée?
Oui, 2020.
Ça passera par Bordeaux, dans ces coins-là?
Oui, tout à fait. Ouais.
On va scruter ça, Michael. Et puis on en reparlera bien évidemment. Merci à toi d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un petit extrait. La Belle Époque, c'est en ce moment au cinéma. À bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps.
Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub.
Concernant l'époque, vous avez une idée?
Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non?
Et vous me connaissez très 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 bien.
Ah, si vous saviez.
Viens, allez, viens, laisse un peu la lumière.
Et vous?
Moi, je vous dois tout.
Vous me devez tout?
Tout.
Putain, je parle comme une chanson.
Surtout, vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants dans Chut, on écoute la télé avec notre spéciale classe unique, Audrey Fleurot, l'équipe de Trauma et Chantal Goya. C'est tout de suite après ça.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, cette semaine dans nos coups de cœur télé, on continue à parler du bazar de la charité, la fiction événement de TF1 avec Audrey Fleurot qui nous rejoint. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a découvert la semaine dernière les deux premiers épisodes de cette saga événement avec un incendie incroyable. 1897, on replonge à Paris et évidemment avec cette héroïne, Adrienne. Comment on pourrait déjà, première question, définir Adrienne? Qui est-elle?
Alors Adrienne est une grande bourgeoise qui va s'avérer être une grande héroïne, c'est-à-dire qu'elle avait une vie tout à fait normale de grande bourgeoise de l'époque. Il se trouve qu'elle vit avec un homme très violent qui vient d'apprendre qu'elle s'était renseignée sur la procédure de divorce. Et chose qui ne se faisait évidemment pas du tout à cette époque, et qui donc pour se venger, il sait que le seul levier qu'il peut avoir sur elle, c'est d'enlever sa fille, d'enlever leur fille. Et donc, l'épisode 1 démarre sur elle qui doit se rendre à ce fameux bazar de la charité qui est une vente caritative où toutes les grandes bourgeoises allaient dépenser de l'argent. Et comme lui, il a des velléités politiques, il faut absolument qu'elle s'y rende et qu'elle montre qu'elle dépense beaucoup d'argent. Et donc, elle va effectivement s'y rendre, elle va rester 5 minutes et elle va retrouver son amant. Et quand elle va revenir au bazar de la charité, elle va s'apercevoir qu'il y a eu ce drame avec toutes ces femmes qui sont mortes, brûlée vive à l'intérieur, et donc prise de conscience que elle devait faire partie de ces femmes, et elle va profiter de ce drame pour se faire passer pour morte et essayer de réinventer sa vie
et d'essayer d'y voir une libération en même temps de cette emprise de son mari.
Tout à fait. Mais ça parle beaucoup d'émancipation féminine via les trois personnages féminins. Et c'est vrai que pour mon rôle, l'idée de ne plus dépendre d'un homme et de vivre seul, c'était assez courageux pour l'époque.
C'est pas la première fois que vous replongez avec un village français dans les années 1900. Là, on est même carrément avant. Ça vous plaît, vous, justement, c'est plus facile pour vous de vous mettre dans un personnage dès qu'il y a un costume? Est-ce que c'est plus facile?
Moi, je préfère. C'est une question de goût. C'est-à-dire que moi, je suis très friande en tant que spectatrice de fiction d'époque. J'adore ça. Donc, c'est vrai que je suis particulièrement attirée par ce genre de fiction. Et c'est vrai que j'aime quand ça m'amène un peu ailleurs et j'aime me regarder dans la glace et pas me reconnaître. Je trouve que ça aide beaucoup à créer un personnage. Et puis, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'avoir la possibilité d'avoir d'autres vies, même si elles sont fictives. Et ça me plaît bien de, effectivement, d'aller dans une autre époque, un autre univers. C'est une façon de remonter le temps et d'avoir, voilà, la possibilité de vivre d'autres vies. Je trouve ça compliqué de se satisfaire d'une seule vie.
Quel est votre plus beau souvenir de tournage, Audrey?
Oh là là, j'en ai plein, mais c'est vrai que rétrospectivement, je me dis qu'on doit avoir les dernières images de Notre-Dame de Paris avec sa flèche.
C'est le premier plan de l'épisode 2, oui.
Ouais. Et c'est assez émouvant de l'avoir. D'ailleurs, je pense qu'on devait être les derniers à la filmer. Et je me dis, on n'en avait pas conscience quand on le faisait, mais je me souviens très bien de cette journée parce que je m'étais échappée pour aller m'acheter une glace Bertillon en costume sur l'île de la Cité et que le vendeur a un peu halluciné et qu'il me cherchait partout. Voilà.
Non seulement il voit Audrey Fleurot arriver, mais en plus en costume. Ça a dû y faire sa journée.
En costume pour acheter une glace pendant que toute l'équipe est en train de se demander où je suis. Bon, j'ai fait un aller-retour assez rapide, hein, mais bon, voilà.
Bon, ça c'est une belle anecdote. En tout cas, on va découvrir les aventures d'Adrienne. On va voir comment elle s'émancipe tout au fur et à mesure, eh bien, des 6 épisodes qui restent. Du théâtre, je crois, hein, pour cette fin 2019, début 2020 aussi.
Tout à fait. Je joue au gymnase Jo.
Un beau rendez-vous à ne pas manquer qui partira en tournée. En France?
Je n'en sais rien. L'idée, c'est déjà de voir un peu comment ça se passe. Et puis, si ça marche bien, on sera ravis de partir en tournée. Ouais.
Merci, Audrey, d'être venue nous voir. Parce que je sais que l'agenda est chargé avec le bazar de la charité et le théâtre. Alors, merci infiniment et puis à très vite.
Merci à vous. Au revoir.
Merci, Audrey. À bientôt.
Vous voulez que je prenne la place de votre fille?
Lundi prochain, la suite du bazar de la charité.
Ton enterrement est prévu pour demain matin. On fait comment maintenant pour récupérer ta fille? T'as une idée?
Non, je sais pas encore. Tu me sacrifies pour de l'argent?
Julien fait partie de notre famille depuis tellement longtemps maintenant.
On ne peut pas se revoir. Je ne suis pas libre comme vous.
Ne vous laissez pas vendre, surtout.
C'est lui qui a posé cette foutue bombe. Retrouvez cet homme et vite.
Bien, monsieur.
Mademoiselle Alice de Jeansaint demande à vous voir.
Alice.
Allez, dimanche prochain, dans nos coups de cœur télé, eh bien, vous allez pouvoir découvrir une toute nouvelle série sur 13e rue, une série qui s'appelle Trauma, réalisée par Fred Grivois, qui est justement avec nous. Bonjour, Fred.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis joué eh bien, par Guillaume Labbé qui est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Margot Bansillon, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va planter un petit peu le décor avec toi Fred de cette série. 6 fois 45 minutes pour 13e rue. C'est, si je m'abuse, la première création pour 13e rue originale. Alors cette série, c'est l'histoire en fait de Adam qui est un flic sur les traces d'un tueur en série. Et qui est joué par Guillaume Labbé, qui est avec nous et qui joue eh bien, ce rôle de Adam. Première question que j'ai envie de te poser à toi, Guillaume, comment tu définirais Adam, puisqu'on n'a pas vu encore la série, mais les téléspectateurs qui vont la découvrir, à quoi ils peuvent s'attendre?
C'est un homme qui recherche son identité, qui perd la mémoire après un choc, après une balle dans la tête, et qui se réveille d'un coma sans souvenir de qui il est. Et donc c'est un homme qui essaie de se reconstruire, de savoir si c'est quelqu'un de bien, si en fait il trouve, dès le premier épisode, il trouve dans sa cave une femme qui est ligotée, qui a l'air d'être là depuis un moment et avec qui il a l'air d'avoir une relation. Et il ne sait absolument pas qui c'est et plus il continue son enquête sur le tueur en série, plus il se rend compte que potentiellement ça peut être la prochaine victime. Donc voilà, il doit se reconstruire dans cet environnement, ce qui n'est pas évident.
Donc tu joues le rôle de cette femme terrorisée, Margot?
C'est ça, de cette femme captive qu'on retrouve donc à la fin du premier épisode dans la cave d'Adam, juste après son amnésie.
Ils n'ont pas dessiné sur le maquillage, tu en as bavé un petit peu pendant ce tournage, Margot, raconte-moi.
Oui, on va dire que c'est un rôle assez chargé en émotion à ce niveau-là, puisque je passe tout le tournage pratiquement dans la cave, à essayer de sortir de cette prison. Donc j'en chie, quoi.
Il n'y a pas d'autre mot. Un tournage rapide, comment ça s'est passé, Fred, là-dessus? Est-ce que ça change quelque chose de tourner pour 13e rue que si on tournait pour France Télévisions ou TF1? Les conditions de tournage sont-elles les mêmes? Est-ce qu'il faut tourner plus vite? Est-ce qu'il faut trouver des solutions pour gagner en efficacité et budgétairement?
Absolument. Alors, c'est, le fait que ce soit 13e rue ou une autre, une grande chaîne hertzienne, ça change pas foncièrement. Par contre, moi qui viens du cinéma, c'est là où ça change beaucoup. Surtout dans le minutage utile par jour, puisqu'au cinéma, on va faire au pire vraiment... dans des journées très chargées, on va faire 4 minutes utiles par jour. Avec eux deux, là, on a conclu des journées à 12 minutes 30 de texte.
À une seule équipe ?
À deux caméras, une seule équipe, ouais.
Oui, d'accord, 12 minutes 30, c'est pas mal, oui.
Ah bah, ces journées-là, en général, en fin de journée, eux, ils commençaient à mélanger le texte de ce qu'on avait fait le matin à 8 heures. On savait plus trop où on en était. Comparé au cinéma, c'est très très agréable, c'est très grisant. De travailler dans un rythme comme ça, il faut tout le temps prendre des décisions, on peut pas s'arrêter, c'est vraiment très très agréable.
Qu'est-ce qui vous a fait aller sur le projet tous les deux, pour toi Guillaume ?
C'est Fred Grivois, avec qui on a fait un film, L'Intervention, où j'avais déjà été comédien dans son film, et on s'est parlé du projet assez en amont. Donc Fred, avec qui j'avais envie de continuer de travailler, ça c'était évident, et puis le pitch m'a tout de suite séduit, et plus ils l'ont développé, plus j'ai aimé ce que j'ai lu. Et plus j'ai aussi vu, aussi moi en comédien, ce que je pouvais faire et à quel point je pouvais m'éclater dans le rôle. Et c'est vraiment ce qu'il y a. Et puis le genre, qui, avec de la comédie en même temps, une ambiance très tendue, un vrai thriller où on est trimballé à droite à gauche, c'est très agréable.
Et pour toi, Margot ?
Moi c'est un peu pareil, la rencontre avec Fred a été décisive aussi, de par sa manière de travailler, son aspérité à vouloir travailler collectivement, donc on a pu vraiment participer à tout le processus, on pouvait faire beaucoup de propositions, on avait aussi beaucoup de liberté, donc moi j'adore aussi travailler comme ça, et puis après c'était un rôle qui m'offrait, qui était juste sublime, que moi j'avais pas encore joué, qui m'intéressait, une femme captive qui fait tout pour s'en sortir, donc j'avais énormément de couleurs à trouver, à jouer, à chercher, donc c'est un peu un cadeau de comédienne.
Surtout que toi t'as déjà pas mal de palettes de jeux entre la comédie, le côté un peu loufoque dans le film avec William Legbill aussi, ça partait en live dans tous les sens, c'est ça aussi qui est plaisant pour un comédien, c'est de pouvoir jouer plusieurs facettes de ce qu'on peut faire.
Complètement, pour moi c'est de se diversifier. En tout cas, plus on peut faire de choses diverses, moi, plus je suis heureuse.
En tout cas, il vous faut découvrir cette fiction. Meilleur souvenir de tournage sur Trauma ? Alors, je rappelle, ça démarre dimanche sur 13e rue. On va continuer à le rappeler, mais Fred, est-ce que tu as un souvenir particulier qui te remonte là ?
Oui, mais c'est dur de ne pas raconter. Faut pas que je spoil. Y a une scène où Margot devait être dans les pommes. La scène est écrite comme ça et on était en fin de journée. On était tous très très fatigués.
Elle est vraiment tombée dans les pommes.
Pas du tout, elle ne pouvait pas réfréner un fou rire.
Ah oui, là ça devient compliqué.
Mais oui, dans tes bras, j'étais dans tes bras.
Non mais ce qui est marrant, c'est que mon meilleur souvenir était quand même en fin de semaine. On a eu une semaine très chargée dans la cave, où on n'était que tous les deux. Et ce qui était assez génial parce qu'on était en une équipe assez réduite dans cette cave toute la journée. Et effectivement, il y a vraiment un moment où on a craqué. Il y a vraiment un moment où soit on pleurait, soit on se marrait. On a vraiment beaucoup beaucoup ri. Je crois que c'est ça en termes de plaisir.
Moi, j'ai pas une scène préférée. C'est vrai que toute la semaine qu'on a passée dans la cave, en fait, les jours se confondent et les scènes se confondent parce qu'on faisait des très grosses journées et que chaque scène en plus qu'on a à jouer ensemble est très différente. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une émotion très triste à de la violence, à de la colère. Donc c'est très chargé.
Eh bien, on va découvrir Trauma sur 13e rue, ça sera dimanche. On y découvrira aussi Narcisse Mam, Alison Paradis, Alexandre Furet, Philippe Lebas et Sébastien Lalanne qui vous accompagneront sur l'écran avec toi Guillaume et avec toi Margot et Olivia Ross. Voilà. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Et c'est parti pour 3 semaines de diffusion, 6 fois 45 minutes sur 13e rue. C'est ce soir, on écoute tout de suite un petit extrait.
Je m'appelle Adam Belmont. Je suis né le 26 août 1979 à Malakoff. Je me suis engagé dans la police à 20 ans, puis la crime au 36. Je me suis marié, on a eu un enfant. 3 ans après, on a divorcé. L'année où j'ai été promu capitaine de groupe.
Where is my mind?
Papa, qui sont ces personnes pour vous ?
Je me rappelle de rien.
Where is my mind?
Vous avez eu un terrible accident, vous avez été plongé dans le coma. Vous êtes un peu comme un nouvel homme. Votre identité est un puzzle.
Si les pièces ont disparu.
Peut-être qu'elles sont toutes là et qu'il faut juste les replacer correctement.
Une série originale 13e rue. Trauma. Lundi 25 novembre à 20h55. En exclusivité sur 13e rue.
On va démarrer notre spécial classe unique avec les deux héros de ce téléfilm qui sera diffusé cette semaine sur France 3. Clémentine Sélarié qui est avec nous. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Sam Carman qui est également avec nous. Bonjour Sam.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors on va planter un petit peu le décor de cette classe unique, l'histoire de ce maire qui décide d'accueillir des migrants pour sauver son école. Une histoire forte et tellement au goût du jour aujourd'hui. C'est tellement d'actualité tout ça, Sam.
Oui, ben oui, c'est un petit peu la fonction du service public de nous raconter des histoires qui sont ancrées dans du réel, et c'est ça qui est très très bien dans cette histoire. Vraiment, on est avec les gens, ces oubliés des provinces, et les maires qui sont un petit peu délaissés des pouvoirs publics, qui ont moins de moyens, les écoles qui ferment, les gens qui partent, la désertification, voilà, ça parle de ça, ça parle de solidarité, ça parle de la France qui accueille, de la France qui aide, voilà. Mais c'est aussi l'occasion d'un parcours. Je pense que ce maire, au début, il est pas très chaud pour voir tous ces gens arriver, et c'est grâce à sa rencontre, ou plutôt à la re-rencontre qu'il fait avec le personnage que joue Clémentine, que les choses vont évoluer. Ils se sont connus jeunes, et elle a fait une vie de combat. Lui, il a fait une vie plus centrée sur les médecins, donc plus local. Il a moins bougé, c'est peut-être moins ouvert l'esprit qu'elle ne l'a fait elle. Et c'est aussi très beau cet échange de ces personnages qui se redécouvrent.
C'est souvent qu'on retrouve Clémentine dans des rôles de femmes fortes, des rôles de femmes qui combattent. Moi, je me souviens vous avoir eu pour l'adaptation d'un livre. Hein, vous aviez joué dans un très beau téléfilm pour France 2.
Oui, sinon c'est des personnages un peu lisses, c'est pas très marrant. Et encore, il n'y en a pas assez des personnages comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est une occasion double, c'est vrai, de parler d'un sujet qui est fort, qui est humain, qui est, comme dit Sam, d'accueil, la France d'accueil. Ce qui est chouette dans ce film, c'est qu'on rencontre des personnes qui viennent du Maroc, d'Égypte, de l'Iran, du Liban aussi, des métis marocino-libanais. Parce que en général, on est rarement, c'est vrai, on travaille rarement avec des acteurs d'ailleurs, quoi, d'autres pays. Donc ça c'est chouette, quoi. Et puis avec Sam, c'est vrai que c'est merveilleux, parce que cette histoire, c'est effectivement deux personnes qui se retrouvent. Chacune a eu son trajet, sa trajectoire. Lucie, mon personnage, travaille dans les ONG. Elle était sage-femme avant, quand ils se sont connus, et là elle accueille donc des réfugiés, et puis elle planque deux sans-papiers, deux personnes sans-papiers. Bon, voilà, donc elle est un peu voilà, et elle demande à Jacques d'être un peu aussi, d'aller avec elle dans le borderline, quoi, dans le... Donc ça, c'est chouette, parce qu'ils ont été jusque-là dans ce film. C'est-à-dire que on suit pas la loi vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a un débordement, donc c'est intéressant, les débordements, parce que sinon, on s'emmerde un peu. Donc voilà, donc c'est un très chouette projet, vraiment. Et Gabriel Aguillon, moi, je l'aimais beaucoup. Je l'ai découvert là, humainement, enfin, en tant que réalisateur. C'est, enfin, voilà, c'est une chouette aventure, vraiment. Mais c'est Jacques, hein, c'est Sam qui mène la danse, et c'est chouette, parce que c'est une belle danse, d'ailleurs, en fait.
C'est une danse collective. Tu dis que je mène la danse. C'est une danse collective parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce film. Il y a toute une galerie de portraits, des personnalités, comme tu disais, qui viennent de partout, qui ont des origines de partout, parce que ce sont des comédiens qui ont le droit de travailler. Ils ont leurs papiers, hein, je vous rassure, hein, tous. Et donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'ils viennent de cultures, voilà. Et c'est cette France-là aussi. Il est temps que ça s'accepte, que la France des Gaulois n'a intéressé que les Gaulois, quoi. Voilà.
Vous avez pu ça rencontrer des maires qui ont été confrontés justement à l'accueil de migrants comme ça. Est-ce que vous avez pu discuter, échanger avec des personnes?
Non, mais je me suis beaucoup intéressé à ce qui s'est passé à Grande-Synthe, par exemple, quand il y a eu toute cette histoire de Grande-Synthe il y a quelques mois, quelques années, où à Calais, autour de Calais, voilà, où il y avait la jungle, et comment on faisait. Voilà, je me tiens très informé, et sans avoir eu de relations personnel avec ses responsables locaux, je me suis bien renseigné pour savoir comment ça se passait. Puis j'ai vu des reportages, et puis voilà.
Quel a été le moment le plus fort pour vous de ce tournage, Clémentine?
Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que j'ai rencontré une femme, une commerçante, ou une dame qui travaille dans un magasin de fringues chic à La Rochelle, et qui m'a dit « Ah, oh, vous faites un film là-dessus, moi j'accueille des réfugiés bénévolement, enfin, je trouve ça dingue, et ça a bouleversé sa vie, donc c'est quand même incroyable. Donc voilà, des moments forts, on en vit beaucoup, en fait. On en vit tous les jours, il y a quelque chose, mais après, dire ce que c'est exactement, c'est délicat, mais... Et alors, la justesse du décor, c'est-à-dire que jamais on se croirait dans un film, c'est incroyable, c'est... Et la justesse des acteurs, enfin, on dirait que... On peut penser quelquefois que Sundos qui joue Yana, qui est supposée être afghane, et en fait, moi quand je lui parlais la première fois, j'avais l'impression peut-être qu'elle parlait pas bien français. En fait, c'est une actrice qui est au conservatoire et qui parle très bien français. Enfin, c'est drôle, quoi, parce qu'on pouvait mélanger la vérité. C'est dire la vérité du film, ça c'est important. Voilà.
C'est vrai, quand je suis arrivé sur le tournage, on n'avait pas l'impression d'arriver sur un plateau de tournage de télévision, de cinéma. On avait l'impression d'arriver dans une vie réelle, en fait. Hein.
Un reportage, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime tous les jours, c'est retrouver ce maire, parce qu'il se pose des questions que bien évidemment, je me pose. Il agit, et moi aussi, j'ai pas trop envie de parler de moi, mais quand même, je suis obligé de le dire. Moi, quand on me propose ce personnage, ça fait un an et demi qu'on est quatre familles. J'ai été sollicité par une amie metteur en scène de théâtre qui m'a dit voilà, moi j'habite près de la rue de la Chapelle et j'ai vu un môme, il va, si on le laisse dans la rue il va mourir, et j'ai parlé avec lui, il vient de la Guinée, il parle parfaitement le français, il est brillant ce môme, il faut faire quelque chose pour lui. Ça fera 2 ans qu'on l'accompagne. Voilà, donc c'est possible. Il y a des gens qui ont la place, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont les contacts. Chacun a plein de qualités. On est 4 familles, on est 8 personnes. Et d'autres, parce qu'on coopte aussi des amitiés. Et on accompagne ce garçon et on l'accompagnera jusqu'au bout, pour l'instant, légalement, parce qu'il fait des demandes. Il fait des demandes, il a été refusé, débouté en première à l'OFPRA, mais il fait appel. Il est accompagné par un avocat maintenant, spécialiste. Et j'espère qu'il va pouvoir rester avec nous. En tous les cas, voilà. C'est possible que chacun fasse sa part dans ce monde. C'est pas grand-chose et c'est beaucoup. Et de pas être seul, de le faire avec d'autres. Voilà.
C'est aussi ça, l'histoire de Classe Unique, téléfilm qu'on va découvrir sur France 3.
Ce que vient de dire Sam, c'est très chouette qu'il l'ait dit d'abord, parce que c'est très précieux. Et que ça nous a bien éclairé à des moments pendant le film. Parce que toi, tu le vis, et du coup, voilà, il y avait des moments où Sam disait, ben non, mais ça c'est... Oui, enfin, que ce soit précis, quoi, que ça vienne de quelqu'un qui vit, voilà, c'est ça que je voulais juste dire.
Découvrez ce très beau film, en tout cas, sur France 3. Cette semaine, on va continuer à en parler dans un instant, on va tout de suite écouter un petit extrait, et nous, on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite, à très vite.
Merci, merci.
Merci.
Comme vous le savez, nous attendions cette réponse, et pour l'instant, elle est négative.
Ça fait des mois qu'on se bat pour sauver cette classe.
Oh là là.
Des mois. Tu nous annonces comme ça de but en blanc, c'est qu'il n'y a plus d'espoir, on s'est battu pour rien en fait.
Non, le rectorat a la pression du ministère et le ministère leur dit qu'ils ne peuvent pas maintenir la classe.
Mais c'est nous qui avons la pression. Ce que tu nous annonces, c'est la mort du village.
Olivier, il regarde les chiffres. Donc ils nous disent que les enfants iront agenouillés et que c'est même mieux parce que là-bas, il y a plus d'équipement.
Nathalie a raison, ça se fait de plus en plus. Hein. Malheureusement, les résultats sont pas forcément mauvais.
T'as des enfants? Non, t'as pas d'enfants. Et nôtres, ils vont faire 2 heures de car maintenant, tous les jours, pour aller à l'école.
Sans compter que l'hiver, la route peut fermer à cause du verglas. Ouais. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Mais il y a une bonne nouvelle, on a encore une carte à jouer. J'ai obtenu un rendez-vous avec le préfet.
Allez, on va continuer à parler de Classe Unique avec Arthur Chouanet qui nous a rejoint. Samuel Jouy, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut. Merci d'être avec nous. On a planté un petit peu le décor avec Clémentine Célarier et Sam Carman. Première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous garderez, vous, comme souvenir de votre tournage en Charente-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine, déjà? On va parler de votre rôle, évidemment, après. Ouais, Arthur.
Jouer des méchants, parce que je suis pas méchant dans la vie. Et que du coup, jouer des fachos, c'est ma première, donc c'est stimulant dans le sens où bah ça me fait essayer d'autres choses, et c'est toujours stimulant de jouer quelque chose qu'on n'est pas dans la vie. Donc voilà, non, c'est cool.
Donc c'est le principal souvenir que tu garderas d'ici.
Ouais, cette confrontation qu'il y a entre des gens qui cherchent à sauver des vies, en fait, à sauver des gens, et puis c'est cette bande de mecs le fascisme qui existe partout en France, en fait. On sait que c'est du jeu, mais on sait que ça existe aussi, donc c'est assez troublant.
Samuel, premier souvenir aussi du tournage qui restera gravé.
Bah moi la Charente c'est pas la première fois que je viens, donc surtout à La Rochelle. Souvenir, moi j'aime bien la jetée là qui va jusqu'au phare à La Rochelle, j'aime bien me promener là-bas. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup, donc c'est un des souvenirs que je garde de La Rochelle.
Alors vos rôles à tous les deux, Samuel.
Moi je suis un boucher, on va dire un petit peu hostile à la venue des migrants au début et qui change d'avis au milieu de l'histoire. Voilà, et qui au contraire après les découvre et les fait venir, notamment contre des mecs un peu plus restreints au niveau du cerveau comme celui que joue Arthur.
Oui, alors du coup, moi, je vais répondre aussi à la première question quand même, qui était plus niveau du décor. Moi, j'ai très peu visité du coup, puisqu'on est plus sur les tournages, sur le tournage, mais j'ai pu visiter un tout petit peu La Rochelle de nuit. Je trouve ça très très joli. Voilà, c'était juste pour reprendre la question.
Situé à La Rochelle by night, mais c'est bien ce qui répond aux questions en intercalé.
Ouais. Moi, j'échange les réponses. Non, mais du coup, moi, bah, du coup, j'ai déjà répondu au niveau du personnage et tout. C'est très très stimulant à jouer et très voilà, c'est particulier, mais je prends beaucoup de plaisir.
Donc c'est le rôle de l'apprenti, hein, apprenti boucher.
Ouais, moi je suis Kevin, l'apprenti boucher. Comme l'a dit Samuel, je suis un peu restreint au niveau du cerveau. Je pense pas vraiment par moi-même et je suis un peu le suiveur. Suiveur en tout cas de mon patron. Et puis après, sauf que j'ai tellement les idées ancrées que j'en démords pas trop et je suis méchant presque jusqu'à la fin du film, quoi.
Alors c'est un sujet terriblement d'actualité, accueillir des familles de migrants pour sauver une école. C'est vraiment un sujet fort en plus, hein, qui a été créé pour ce téléfilm.
Ouais, complètement. Moi je viens de province en Normandie, j'ai encore de la famille là-bas et il s'est passé la même situation il y a 2 ans. C'est un petit village de 2000 habitants et il y a une dizaine d'Afghans qui ont été accueillis par la mairie. Donc au début il y avait beaucoup de gens qui étaient hostiles. Puis maintenant au bout de 2 ans ça se passe très très bien.
Oui, ça, je pense que le film a voulu retranscrire ce qui se passe vraiment dans la vie, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de triche, en fait. Ça se passe malheureusement comme ça. Donc, ouais, je pense que c'est important de parler de ce genre de sujet.
On va continuer à en parler, hein, de Classe Unique, évidemment, avec d'autres comédiens qui vont nous rejoindre dans un instant. On va réécouter un petit extrait de ce très beau téléfilm diffusé cette semaine sur France 3. Merci à tous les deux.
Je dormais, pardon.
Bonjour, Madame Brun.
Entrez, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
On a un mandat.
Ah! Oui, je vous fais confiance, j'ai pas mes yeux, je peux pas lire.
On a reçu une plainte. Vous hébergeriez des réfugiés en situation irrégulière.
Moi ? Et clandestin ? Pourquoi j'ai fait cette connerie ? Franchement.
Il y a quelqu'un qui dort ici ?
Ouais. C'est des copains. Parce que je vais vous expliquer un truc. On a fait une bringue. Incroyable, on a bu comme des trous. Donc forcément, ils ont préféré roupiller un petit peu avant de reprendre la route et conduire ivre mort. Vous voulez une petite corde de gazelle?
Non, merci. Si vous mentez, vous risquez 5 ans de prison, vous savez ça.
Ouais, bah je sais, ouais. Je suis pas débile.
On continue notre spécial Classe Unique avec nos deux nouveaux comédiens qui nous ont rejoints. C'est Fanny Gilles et Geoffrey Platel qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Le rôle de Nathalie et Rémi. Alors pour toi, c'est la fille de Sam Carman, Fanny, que tu joues dans ce film. Une histoire évidemment où jouer mari et femme tous les deux, une famille... voilà, où il y a des difficultés, on peut dire, dans le couple. Et est-ce que toute cette histoire va aider à remettre le couple en selle? Ben, c'est tout ce qu'on découvrira, évidemment, dans ce téléfilm. On va déjà parler, on a planté le décor avec Sam et Clémentine, mais parler de vos rôles. Voilà, comment tu définirais déjà Nathalie, Fanny?
Nathalie, c'est l'institutrice et qui a été élevée aux valeurs humanistes de son père, qui est un grand lecteur, en plus d'être un médecin. Et elle, c'est vraiment quelqu'un qui est dans cette générosité, dans cette solidarité, et qu'elle vit au quotidien avec les enfants. Mais donc, ça va être très naturel pour elle de dire oui immédiatement à l'arrivée de ces personnes, de ces enfants. Et elle va toujours aller dans ce sens-là auprès de son père. Elle est très très proche de son père puisque son père est veuf et ils sont très très soudés. Donc elle va l'encourager à aller dans ce sens-là. Et donc voilà.
On va découvrir cette histoire. Rémi, comment tu définirais toi, Geoffrey, le personnage de Rémi?
Donc c'est un entrepreneur et qui passe par une période difficile parce qu'il est un petit peu au chômage quand même au moment où on le découvre dans le film, et qui est aussi en difficulté dans son couple. Donc c'est un personnage qui a beaucoup de difficultés en résumé. Et finalement cette opportunité qui s'offre à lui dans cette histoire, c'est que il va pouvoir mettre ses talents d'entrepreneur au service des réfugiés, qu'il va pouvoir, pour essayer de les accueillir au mieux, pour essayer de leur redonner un confort de vie qu'ils ont malheureusement perdu. Donc il va contribuer à ça, ça va être surtout cette partie-là qui va être la plus importante.
Quel a été le moment le plus fort pour vous du tournage?
Le moment le plus fort, je pense, en fait, on a eu les 2 jours, on a tourné dans le décor de la maison de Nathalie, où donc j'avais beaucoup de scènes avec mon mari et également avec le personnage de Nassim qui est joué par Amir El Kassem. Ont été 2 jours de subtilité, d'émotion retenue et en même temps... C'était vraiment de grandes complicités. Moi, ça a été 2 journées magnifiques avec la petite Leïla aussi qui joue le rôle de la fille de Nassim. Ça a été vraiment des journées... Mais avec cette manière que Gabriel a de nous diriger tout en délicatesse, en amour, c'était vraiment des jours merveilleux pour moi.
Et pour toi, Geoffrey ?
Je la rejoins là-dessus, toujours sous la direction de Gabriel aussi, qui nous amène assez délicatement vers ce qu'il veut. Moi, ce qui me revient, c'est cette scène où on a, parce qu'on a beaucoup ri, j'allais dire, mais je sais pas si je peux en parler. Enfin, une scène où mon personnage essaie de séduire à nouveau sa femme. Et finalement, on a tourné ça un petit peu en comédie pour amener un peu de,
enfin, légèreté.
De légèreté dans tout ça. Ouais, et j'en garde un très bon souvenir. J'espère que les gens riront autant que nous, on arrive, bien sûr.
On a eu tous les deux une complicité immédiate et une bienveillance et un humour immédiat. Et c'est vrai que c'était un vrai plaisir d'aller explorer toutes ces zones, même si elles sont complexes de la relation. Mais on les a explorées avec beaucoup de bonheur et de joie. Oui.
Merci à tous les deux d'être passés nous voir pour ce spécial Classe Unique, hein, puisque c'est diffusé cette semaine sur France 3. À très bientôt.
Merci Alain.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Les garçons, on va discuter entre filles. D'accord ? Yes.
C'est votre fille?
Oui, c'est Rima, c'est ma fille, oui.
Très mignonne.
Merci. Et vous, c'est Hassan?
Oui.
Marhaba, c'est Nassim, moi.
Enchanté.
Lucie m'a dit que vous avez fait la demande aussi pour l'asile, non?
Oui.
Inch'Allah, khair. J'espère que ça aboutira. Mais je ne vous ai pas vu dans le centre à Clichy. Pourquoi?
Il n'y avait pas assez de place.
Comment? Pas de place? Il y a de la place toujours là-bas.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et coup de cœur ciné, cette semaine consacrée au film Toute ressemblance de Michel Denisot avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur et Caterina Murino. Ça sort mercredi au cinéma. L'histoire de l'arrivée fracassante à la tête du 20h de Cédric Saint-Guirande, dit CSG, et qui est le présentateur préféré des Français. Ses audiences insolentes attisent bien sûr bien des jalousies au sein même de la grande chaîne dont il est la star incontestée. Voici tout de suite la bande-annonce.
Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guirande.
Ça viendra.
40% de part de marché hier soir.
Oh, danse de joie.
Yes! Trouvez-moi les failles de ce fils de pute.
Encore un ce matin.
Le coup du cercueil, quand même.
Mais s'il y a une bombe dedans?
Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive?
Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais... Moi, je dirais plutôt une femme.
Mais non, il n'y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée.
Et dans un instant, la dernière partie de Chute, on écoute la télé. Chantal Goya s'installe à nos côtés. On la retrouve dans un instant. Surtout, ne bougez pas pour le grand final. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé. Le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé, dernière partie de cette émission. Et là, je peux vous dire que je suis très fier. Elle est à mes côtés, on en parlait depuis le début de l'émission. Elle sera en tournée un petit peu partout, près de chez vous. Et en Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement le 1er décembre à La Rochelle et le 21 à Limoges. C'est Chantal Goya qui termine cette émission avec nous. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le soulier qui vole, c'est le nouveau spectacle qui fête en même temps 40 ans de carrière. Et on a l'impression qu'on vous arrête plus. Vous n'avez plus envie de quitter la scène.
Ben, j'ai jamais eu envie de quitter la scène. Ces 40 ans de scène sont très importantes parce que tous les petits que j'ai connus hier sont devenus papa et maman aujourd'hui. Ils m'apportent leurs enfants et c'est un grand bonheur de les retrouver. Beaucoup d'émotions et surtout avec ce spectacle qui est un spectacle mythique pour moi. Dès que je parle à quelqu'un, vous m'avez connu où? Ah, c'était dans Le Soulier qui vole. Donc voilà, Le Soulier, il est là avec tous les costumes de l'époque. Rien n'a changé, hein. J'ai gardé exactement l'intégralité de ce spectacle qui avait été créé en 1980 par Jean-Jacques Debout. Et je trouve que c'est un hommage d'abord à tout ce public qui est venu me voir en premier. Et puis, première création de Jean-Jacques. Et puis moi derrière, voilà, j'ai toujours suivi mon public.
C'est quoi le secret de la longévité pour vous?
Longévité, il y en a deux. Il y a déjà par rapport à mes parents, maman était quelqu'un de très jeune d'esprit et elle a gardé ça toute sa vie. Ma grand-mère, pareil. Moi, je pense que je les suis de très très près. Et puis cette carrière fabuleuse que j'avais pas du tout prévue, puisque moi j'ai jamais fait plan de carrière. Je voulais être journaliste, je voulais vous interviewer, voilà, ce soit vous. Mais finalement, c'est vous qui m'interviewez, ce qui me fait drôle. Mais je pense que le plus important dans ma carrière, c'est que mon public était là et j'ai jamais pensé les quitter. Et au contraire, je les ai toujours suivis et ils m'ont toujours donné de bons conseils. Donc voilà, c'est très important pour moi.
Alors, vous avez bercé évidemment toute notre enfance, Chantal. Il est vrai qu'on vous a souvent prêté des inimitiés avec Dorothée, mais vraiment que toutes les deux, je crois que vous avez été nos deux meilleures nounous finalement.
Bah, Dorothée est très amie avec moi et moi aussi. On n'a jamais été fâchés. C'est sur des histoires de l'époque, mais on n'a jamais été fâchés. Au contraire, on s'amusait. On disait, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui sur nous? Bon, faut dire que Dorothée, c'est la télé. Moi, j'aurais jamais su faire ce qu'elle sait faire. Et moi, j'étais le théâtre. Donc, on se complétait, mais surtout, elle m'invitait souvent dans ses émissions. Et c'est vrai qu'on a besoin de gens comme vous pour qu'on parle de nous, notamment à la radio, ce qui est très important, parce que la radio, elle rentre chez tout le monde, elle est dans la voiture. Moi, j'écoute beaucoup la radio dans la voiture. Et c'est vrai que quand on a des spectacles aussi beaux que celui-ci, car j'ai voulu que ce soit exactement le même à Paris comme en province et qu'il n'y ait pas de changement. Et ce spectacle avec des 10 enfants, les 12 danseurs, tous les décors, tous les costumes, on a 400. Vous savez, c'est une grosse machinerie et aujourd'hui, ça se voit plus ce genre de spectacle. C'est peut-être pour ça aussi que les parents viennent très nombreux en famille avec deux petits bouts de chou, dont la petite fille est habillée en bécassine. Ça, c'est ahurissant. Dès que je chante la chanson.
C'est la transmission.
Ah ben, c'est plus que de la transmission, c'est de l'amour parce que les costumes sont faits par les grands-mères, par les mamans. Et là, il y a une raison fabuleuse, c'est que tout d'un coup, ils montent tous sur scène habillés en bécassine pour chanter avec la cousine et faire des photos. Surtout ce que là, je dis aux parents, alors là, faites des photos, hein. C'est un beau souvenir.
On est embarqué pendant près de 2 heures dans ces belles histoires, dans toutes ces chansons qu'on connaît évidemment, hein, puisqu'il y aura tous les golds de vos chansons depuis maintenant 40 ans, hein, dans ce spectacle.
Oui, il y aura tout le monde. D'abord, c'est une belle histoire. Elle se passe en Alsace, parce qu'en Alsace, Jean-Jacques trouvait que les maisons étaient très jolies et c'était ça représentait un conte magnifiquement bien. Des petits élèves disent au revoir à leur professeur de musique qui va les quitter et ils sont tristes. Et puis qu'est-ce qu'ils aperçoivent dans le ciel? Une cigogne. Mais comme ils savent qu'il n'y a pas de cigogne l'hiver, ils sont très intrigués et arrive un gros soulier dedans avec moi. C'est Marie-Rose, c'est l'arrivée de Marie-Rose et je viens les réconcilier, je viens les consoler parce qu'ils sont absolument malheureux de quitter ce professeur de musique qui est important pour eux. Et je promets à eux, comme à toute la salle, de les emmener dans un beau voyage. Et nous partons avec ce soulier dans une forêt magnifique où je retrouve évidemment mon lapin, je retrouve le coucou, je retrouve le docteur Sirot, je retrouve tous les personnages de l'enfance, des parents. Et puis après, nous prenons un petit train et nous partons tous à Nîmes-Ville. Mais c'est un conte de fées, comme c'est les écrire Jean-Jacques Debout. C'était mon premier conte de fées à l'époque. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a un sens énorme parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin d'emmener nos enfants pour les faire rêver, leur montrer les belles choses qu'on faisait à l'époque.
Ça vous permet de garder votre âme d'enfant, vous aussi, inexorablement?
Moi, j'ai toujours gardé ma part de... Moi, mon âme d'enfant, elle a toujours été en moi. Vous savez, les enfants, c'est des grands, ce sont des grands poètes. Et il n'y a qu'à voir les dessins que je reçois... Souvent, on dit avec Jean-Jacques, mais tu te rends compte, il y en a eu des grands peintres comme Picasso, Chessac. Les enfants, ils ont déjà tout inventé avant. C'est pur et il faut garder leur pureté, leur âme d'enfant, bien sûr, et puis leur rêve d'enfant, surtout.
Et puis nous, vous nous aidez à garder un autre.
J'espère que vous gardez un petit peu d'enfance en vous, parce que c'est vraiment le démarrage de toute une vie, l'enfance.
Alors Chantal, Le Soulier qui vole, c'est vraiment le spectacle qui fête ses 40 ans sur scène, mais moi j'aimerais revenir sur vos plus beaux souvenirs justement de scène en 40 ans. Est-ce qu'il y a eu des scènes qui vous ont marqué peut-être plus que d'autres? Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont marqué plus que d'autres dans cette carrière incroyable?
Oui, il y en a eu certainement beaucoup, mais c'est toujours différent à chaque ville. Alors, c'est là que c'est bien, c'est que moi je peux m'adapter facilement. Je me souviens qu'en Belgique, je voyais arriver deux personnes qui se donnaient la main, j'ai dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je voyais arriver de plus en plus près, et elle me criait « on est les mamies du quatrième âge !» J'ai dit « qu'est-ce que c'est que ça ? On veut monter dans le soulier qui vole !» Dans la bottine qui vole, ils disaient en Belgique. Alors je les ai emmenés avec moi, allez hop, on est montés ensemble, puis on a fait le soulier qui vole. J'ai dit « maintenant, il faut retourner à votre place, hein, je ne peux pas vous garder partout !» Mais on a eu des moments, non mais très bien, je me souviens à Lourdes. Avec Roland Hubert, mon producteur, on avait installé un chapiteau, ce qui n'est pas de Zénith. Un énorme chapiteau. Je dis, Roland, vous savez qu'ici, c'est très important. Il y a la Sainte Vierge qui est plus importante que moi. Hein.
Alors, la grotte ne suffit pas pour accueillir tous vos fans. Hein.
Ah non, la grotte ne suffit pas, mais il y a déjà la Vierge Marie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et pof, on est tombé en panne avec le soulier là-haut. Je dis, mais comment on va faire? Ah, ben j'ai fait, je vous salue Marie. Et puis, le soulier a redémarré. Mais non, mais voyez, c'est des choses invraisemblables qui me sont arrivées. C'est plein d'anecdotes, mais on a toujours eu des moments merveilleux parce qu'au départ de ma carrière, c'était des gros chapiteaux de Sima. Puis après, j'ai inauguré tous les Zéniths. Donc tout ça parce que, un producteur aussi qui était important. Mais ce qui était invraisemblable, c'est que tout ça, c'était pas prévu pour moi d'abord. Moi, je voulais être journaliste, je voulais pas être chanteuse. Vous vous rendez compte, tout ce chemin, grâce au public, hein, grâce à une chanson où j'ai remplacé quelqu'un à la télé parce qu'il manquait une chanson dans un numéro 1 de Carlos. J'ai remplacé Brigitte Bardot qui était malade. Et dit à Jean-Jacques de me faire vite une chanson, m'a dit Mariti, de te faire une chanson dans la nuit. Je l'ai enregistré à toute vitesse, c'était Adieu les jolis foulards, et puis ça a démarré. Et moi, j'ai toujours dit que je gardais ce rêve en moi, et ce beau chemin que j'appelle le rêve, c'est ce chemin que m'a indiqué mon public.
Et la belle histoire continue. Pour venir applaudir Chantal sur scène, c'est simple, 1er décembre à 15h à La Rochelle, au Parc des Expositions. On pourra vous retrouver Chantal aussi le 21 décembre, ça sera à Limoges. On vous retrouvera à Rennes aussi le 22 décembre et à Nantes le 2 février 2020. Et la tournée se poursuit jusqu'à Paris fin 2020.
Voilà, puis j'ai une surprise, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui sort? Mon DVD.
Exactement. Et donc voilà, ça y est, le DVD Souliers qui volent. Alors la chance de vous avoir pile poil le jour de la sortie du DVD. Voilà. Franchement, ça c'est beau.
On a fait exprès, hein. Non, et on a un making of formidable, c'est-à-dire on a un film d'une demi-heure peut-être où quelqu'un m'a filmé mais hors spectacle avec Jean-Jacques. Donc on a des moments très intimes et très beaux que les parents vont adorer.
Et c'est le cadeau idéal de fin d'année pour offrir aussi à vos enfants. Et à vos parents, voilà, pourquoi pas.
Il a été tourné au Palais des Congrès, ma salle mythique, et tous mes spectacles ont été tournés là-bas, et puis voilà, c'est ce spectacle qui va venir ici à La Rochelle.
Ça vient de sortir chez Backstage, donc voilà, c'est le DVD qu'on va trouver partout, dans tous les bons espaces culturels.
Oui, puis surtout dans les hypermarchés, j'y étais pas avant, et maintenant je vais y être. C'est important ça. C'est moi qui fais avec mon caddie, allez hop, je mets tout ce que j'aime, et vous allez me trouver là cette fois-ci.
Mais c'est sûr, je suis sûr que les gens vont vous trouver facilement. Merci beaucoup Chantal.
Merci, gros bisous à vous tous, merci, merci.
On va se quitter avec un petit extrait évidemment de ce soulier qui vole tout de suite. Dans Chute, on écoute la télé.
Il n'y a pas de cigogne en hiver. Belle et châssis qui domine la terre. Dans un amour filial, avec leurs pattes rouges, elles volent sous les étoiles. Au printemps, elles reviendront sur le toit de leur maison, debout sur le rebord des cheminées, veillant sur le nid de leur bébé. Je me Ces beaux oiseaux aux ailes blanches et noires, oh j'aimerais t'en les revoir. C'est vrai qu'il n'y a pas de cigogne en hiver. À travers le ciel, elles reviendront chez elles.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Allez, voici quelques infos donc sur votre émission de lundi prochain qui vous attend avec notamment Maëva Cook qui sera notre invitée exceptionnelle à quelques jours de Miss Univers. Et nous aurons le plaisir aussi de recevoir l'équipe du film Lola vers la mer qui sort le 11 décembre au cinéma, un film de Laurent Micheli qui sera notre invité, accompagné de Mia Bollers, l'héroïne de ce film, et Benoît Magimel du Beau Monde en Perspective. Julie Debona, également la troisième héroïne du Bazar de la Charité, sera notre invitée exceptionnelle, plus plein d'autres surprise, bien évidemment, comme on sait, vous les concoctez. Et attention, à partir de lundi prochain, nous allons vous réserver une surprise exceptionnelle. Ça sera le jeu de la hotte de Noël que l'on va vous réserver avec plus de 150€ de cadeaux culturels à remporter. Alors surtout, soyez avec nous.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes à 7h45, 12h45 et 18h45 sur Radio Vallée-Vézère. Retour de l'hebdo lundi prochain à partir de 11h, rediffusion à 19h. Sur ce, je vous souhaite un excellent appétit à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Sarlat, votre spécialiste culture CD, DVD, jeux vidéo et librairie sur plus de 600 mètres carrés au cœur du Périgord noir. Retrouvez votre espace multimédia dans votre hypermarché Leclerc Sarlat Les Deux Gares. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques Tout sur la Noix, votre spécialiste huile de noix, confiserie, biscuiterie et chocolaterie à base de noix. Tout sur la Noix, c'est 3 points de vente à Sarlat et sur noix-delices.com.